Bonsoir, les travaux avancent bien à Radio B, les couleurs ont été choisies. Celle de l'antenne vous va à ravir d'après vos retours. En attendant l'inauguration des locaux rénovés à l'automne, nous vous proposons de remonter le temps à grands coups d'émissions divisibles par 100 ou presque. Ce soir, nous reviendrons le 28 août 2010 sur Feu Tropic FM pour les 10 ans. Cyril, Patrick, Christian, Thierry et Jean-Philippe nous ont concocté une émission dont vous me direz des nouvelles. Retrouvez la première partie de cette 467e édition pas comme les autres. Il sera question de cinéma et de musique avec un retour sur les 10 premières années d'O Terminus des Prétentieux. Retrouvez à la fin de la rediffusion de l'émission les concerts de la semaine du 20 au 26 juin 2025. Alors, vous êtes bien installé dans la Doloréane du Doc. Sur le convecteur temporel, vous avez choisi le jeudi 28 août 2010. Bon voyage sur le 90.0.
Tropic FM.
Tropic FM.
97.7. Il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Dans 10 ans, O Terminus fêtera ses 10 ans d'existence, 10 ans d'impertinence, 10 ans de différence, 10 ans de voir la vie d'une autre façon. Tout cela n'aurait pas été possible sans une bande d'individus, trentenaires mais pas seulement, animateurs de radio à leurs heures, qu'ils avaient perdu ou désirant livrer aux ondes entières leur façon de voir le monde et de dénoncer à leur façon ce que peu de médias se permettent encore aujourd'hui. Une liberté de ton n'ayant pas varié avec le temps, malgré les pressions de l'establishment local. Rappelez-vous le coup du poisson enveloppé avec le journal local. Preuve s'il en était que l'audience était au rendez-vous malgré l'absence de reconnaissance de la part des auditrices et des auditeurs. Et puis surtout, il y a le talent de nos chroniqueurs à travers les rubriques musique, cinéma et médias, dont les deux dernières ont malheureusement disparu depuis 2003 et qui manquent cruellement à celles et ceux qui se délectaient tous les vendredis à 19h de ces tranches de vie à la fois drôles, cyniques et terriblement réalistes. Ah oui, j'allais oublier celles et ceux sans qui nous ne serions pas les mêmes. Asdi, notre technicien des débuts, Ghislaine, la spécialiste du film coréen érotique, Clément, notre imitateur officiel de Johnny, sans oublier Charles, notre président, et Georges, notre responsable d'antenne, sans qui la liberté de ton ne serait pas la même, n'en déplaise aux médias et acteurs culturels locaux. 10 ans ou presque après, nous ne sommes plus que deux, plus de cinéma, plus de médias, que de la musique, mais avec un esprit soufflant toujours dans la même direction, et des invités de tous horizons et de tout poil, nous confortant dans l'idée que nous sommes toujours dans la bonne direction. Au terminus des prétentieux, 467e plaisir ce soir, est heureuse d'être là 10 ans après et vous jure fidélité pour longtemps encore. Vous trouvez que c'était mieux avant? Et bien sûr, Tropic FM, ce soir, ce sera comme au bon vieux temps.
Bonsoir. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Cette citation d'une personnalité qui fait actuellement beaucoup pour relancer la mode de la chemise brune en France pourrait, hors contexte évidemment, tout à fait convenir à l'émission de ce soir. En effet, Michel et Cyril, à l'occasion des 10 ans du terminus des prétentieux, ne seront pas accompagnés du seul Christian dans ce studio mythique dont le délabrement n'est pas sans rappeler celui des services publics largement accéléré depuis 2007. Ils vont devoir supporter tous ceux qui ont un jour exhibé leur physique de radio sur les ondes de Tropic FM pour donner ces lettres de noblesse à une émission devenue incontournable. Mais avant, comme l'a fait tout à l'heure Michel, nous aurons d'abord une pensée émue pour ceux et celles qui n'ont pu venir. Après avoir longtemps ramé sur la galère affrétée par un néolibéralisme aussi décomplexé que la droite qui nous gouverne, Fred travaille maintenant pour une radio concurrente. Il n'a pu se joindre à nous puisqu'il doit effectuer un reportage en infiltration sur les soirées underground du Mamita à Grenoble. Avant Fred, il y a eu Ghislaine, dont la voix langoureuse et suave avait permis de fidéliser un public masculin lors des premiers temps de l'émission. Et ainsi que Michel l'a fait remarquer, tout le monde se souvient de sa fascination pour le cinéma coréen érotique. Et aux dernières nouvelles, elle y exercerait un rôle de conseillère technique. Enfin, nous avons également croisé le chemin du jeune Clément, alors étudiant à l'époque. Sa réussite universitaire et l'utilisation de Biactol lui ont permis de s'épanouir hors de la radio, échappant ainsi au harcèlement de certains animateurs dépravés en quête d'un giton. Je vois que certains se reconnaissent. Au fait, Clément, si tu nous écoutes, rends-moi le CD de Muse que tu m'avais emprunté en 2003. Et si je ne l'ai pas avant la fin de l'émission, tu peux numéroter tes dents, ça facilitera le travail du prothésiste. Alors maintenant, intéressons-nous à ceux qui sont autour de cette table. Et parmi les vétérans des premières heures, il est celui qui, par la qualité de sa prose et de son savoir, a donné au Terminus une dimension culturelle supérieure, genre le masque et la plume, même si en coulisses, l'émission aurait pu s'intituler « Le Malte et le houblon ». Il intervient régulièrement pour parler des pépites musicales qu'il a découvertes. Bonsoir Christian.
Bonsoir, et oui, 10 ans pendant lesquels nous avons élevé le bafouillage au rang de sport national, et pourvu que ça continue.
Il a longtemps été l'âme des prétentieux. Son sens de la provocation et sa maîtrise du second degré ont souvent enflammé ses interventions radiophoniques et ont même parfois inspiré Didier Porte, à moins que ce ne soit l'inverse. Il nous revient ce soir avec une ferveur et une foi toujours intactes, surtout en Saint-Émilion et Saint-Joseph, à qui il voue régulièrement quelques libations rituelles. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Jean-Philippe. Un t-shirt rose, t'as oublié, j'ai mis un t-shirt rose aussi ce soir. Moi j'aurais aimé être gay ce soir, gay comme un supporter du PSG à qui on aurait offert une photo dédicacée d'Himmler ou un fan de Johnny devant les clichés de la dernière coloscopie de son idole. Mais voilà, j'ai appris cette semaine avec stupeur l'éviction de la pétillante Arlette Chabot, directrice de l'information par le nouveau PDG de France Télévisions. Elle faisait pourtant partie des meubles, Arlette, un meuble bien confortable, une femme qui n'a pas été récompensée pour tous les efforts qu'elle a fournis en faveur de Carlito. Alors ce soir, puisque c'est un anniversaire, j'aurai une pensée émue pour les millions de fans désemparés par le licenciement de cette grande professionnelle de l'information. Et une pensée sincère et amicale pour Christian, qui est le seul d'entre nous à l'avoir vu débuter à la télévision sous la 4ème République.
Et qui en noir et blanc.
Et qui pourra se consoler chaque jour avec le poster de la ravissante Arlette qu'il avait collé sur le mur juste en face de son bureau. D'ailleurs, un bureau où il écrit toujours ses somptueuses chroniques. Un poster où j'espère qu'il aspire seulement pour ses chroniques.
Il n'a siégé qu'un an dans ce studio, mais tout le monde se souvient de lui, en particulier les animateurs du cinéma gay lusitanien. Malheureusement, son taux de cholestérol n'a pu suivre le rythme des autres prétentieux et il est parti se refaire une santé sous les sunlights des tropiques. C'est peut-être cette expérience Gilbert Montagnesque qui l'a conduit à s'occuper aujourd'hui d'enfants malvoyants. Il est là pour fêter une décennie du Terminus. Bonsoir Thierry.
Bonsoir, j'ai pourtant tout fait pour être oublié ici, ça. Voilà, mais on est venu me chercher par le col. Enfin, par le col, je vais déjà enlever ma chemise, dommage qu'on soit à la radio, parce que nos auditrices pourraient voir mon corps musculeux depuis mon passage à Mayotte.
Il était trop jeune il y a 10 ans pour figurer sur la fiche d'émission, mais à la manière dont il lève son coude, il n'aurait sans doute eu aucun problème pour intégrer l'équipe historique des prétentieux. Devenu depuis 7 ans un pilier du Terminus, il nous fait l'honneur de nous accueillir ce soir. Bonsoir Cyril.
Eh bien bonsoir tout le monde, oui vous accueillir, et je suis tout ému de me retrouver au milieu des ex-stars du Terminus des prétentieux. Qui
ont. Vieux, hein.
Oh, et vieux, non, ex, les seniors, on va dire.
D'accord.
Non, qui avaient su élever le niveau de cette émission à un point jamais retrouvé.
Enfin, de last but not the least, je finirai par le capitaine du navire qui tient ferme la barre de l'émission depuis une décennie. Ce loup de mer a écumé les concerts régionaux en quête d'une interview. Il a harcelé plus d'une attachée de presse pour obtenir un phoneur en direct, a pourchassé sans pitié les animateurs qui ne payaient pas leurs cotisations et a toujours su résister à la déferlante des productions musicales formatées. Messieurs, chapeau bas devant Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir Jean-Philippe. Respect. Bonsoir à toutes et à tous. Messieurs.
Bonsoir.
C'est tout ce que tu as à dire.
Pourtant, Oh non. Alors, moi, ce n'est pas d'une certaine émotion que je retrouve un tour de table que j'avais quitté le 25 juillet 2003. Autour de la table mythique de Tropic FM, elle est mythique cette table.
Ah oui, non, c'est clair.
Tout est mythique.
Le jour où je pars, je l'emmène. Hein.
À l'époque, un vendredi soir, il y avait Christian, Jean-Philippe, Thierry et Patrick. C'était en 2003. Il manquait déjà Frédéric, Ghislaine et Clément. Alors moi, je suis fier de présenter à Cyril mon co-animateur depuis 7 ans.
Ah oui, ça tourne.
Ou presque, toute la fine fleur de l'émission et surtout ce qui faisait sa force, que nous essayons de perpétuer encore aujourd'hui, c'est d'une impertinence que nous ayons valu parfois quelques petits soucis, mais qui nous vaut encore aujourd'hui d'avoir des auditrices et des auditeurs fidèles. Alors de Tchat-Tchat à Marie en passant par Rémo et Charles, ils sont la preuve, n'en déplaise à Christian, que nous sommes écoutés. Ah, c'est sûr, hein, nous ne sommes pas en tête des sondages de Médiamétrie, mais après tout, on s'en fout. Si on se fait plaisir en même temps qu'on vous fait plaisir, eh ben, qu'importe le nombre, pourvu qu'on ait la reconnaissance de vous tous qui nous suivez depuis 10 ans. Alors si l'envie vous prend hein, de raconter à l'antenne ce que vous pensez de l'émission, n'hésitez pas, hein, un numéro de téléphone est à votre disposition. Qui s'en rappelle de ce numéro de téléphone?
Bah, j'ai un numéro de téléphone d'un correspondant d'un club de foot, on pourrait donner celui-là, ça éviterait d'être dérangé, non Michel?
Non, peut-être pas. Alors, donc ce sera le 04, alors 74 23 72 29. Alors même si vous nous écoutez sur internet, hein, via le site tropicfm.fr, vous pouvez bien sûr intervenir en direct à ce même numéro de téléphone que je vous rappelle, 04 74 23 72 29. Ce soir, l'émission durera 2 heures. Comme il y a 7 ans, on n'est plus vendredi et il n'est pas 19h, mais le contenu sera à peu près le même. Alors bonne écoute et bon 10e anniversaire au Terminus des Prétentieux. Pistol shots ring out in a barroom night. To Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middle. About to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. But one time he could have been the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking
like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are white. Dexter Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail, but then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old white jury agreed. Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Le protest song, en bon français la chanson engagée, a toujours été populaire aux États-Unis. Des artistes comme Woody Guthrie ou Pete Seeger l'ont fait connaître à un large public. Il a cependant fallu attendre quelques années pour que les médias remplissent tant bien que mal leur rôle de contre-pouvoir en accordant une petite fenêtre médiatique à ces gens-là. Blowing in the Wind de Bob Dylan est sans doute le point de départ d'une acceptation du protest song auprès de ces médias. Première chanson de révolte moderne à être diffusée à une échelle planétaire. Tirée d'un chant d'esclave, un négro spiritual qu'il arrange avec génie, cette chanson sera reprise d'ailleurs par les 250 000 manifestants de la marche sur Washington Washington, organisée par les leaders des droits civiques, dont Martin Luther King, qui prononça son célèbre discours « I have a dream ». À noter quand même que lorsque Bob Dylan chante ses chansons en avril 62, il n'a que 21 ans. La qualité n'attend pas l'âge. D'autres artistes ont depuis suivi la voie difficile du protest song. En vrac, on peut citer Neil Young avec Ohio en 70, inspiré par le meurtre de 4 étudiants par la police sur un campus. Mais aussi des artistes autres qu'américains, comme Gilles Servat en France, Fela Kuti au Nigeria, Tikenja Fakoly en Côte d'Ivoire, etc., etc. Si les médias ont supporté pendant une courte, c'est vrai, période ces chanteurs, la situation a malheureusement évolué dans le mauvais sens vers une uniformisation de la soupe servie. Mais revenons au morceau culte du jour avec le titre Hurricane, tiré de l'album Desire de Bob Dylan, sorti en 75, titre dans lequel il prend la défense de Rubin Carter en dépeignant l'histoire de ce boxeur noir américain, ancien prétendant au titre des poids moyens, accusé du meurtre de 3 personnes en 66. L'histoire de ce titre montre bien la difficulté d'écrire un protest song. En effet, bien que des paroles offensantes aient été réécrites à plusieurs reprises, la chanson est poursuivie en justice par le témoin oculaire Patricia Patty Valentine. De plus, même avec ses paroles révisées, la controverse continue de croître autour du titre. Les critiques de l'époque lui reprochent de ne raconter qu'une version des faits et de manquer d'objectivité, le passé judiciaire de Carter étant ignoré dans l'histoire que Dylan raconte. En fin de compte, Hurricane rapporte assez de fonds et de publicité pour aider Carter à lancer un recours. En passant, vous noterez la beauté et l'égalité du système judiciaire américain. En novembre 75, d'abord, la Cour suprême annonce qu'elle compte réviser l'appel. Un mois plus tard, Carter retire sa demande de pardon, souhaitant une réhabilitation complète. En 76, il est même libéré sous caution, et gagne le droit à un nouveau procès. Mais Carter est de nouveau condamné à 2 peines de prison à vie successives en décembre 76. Dylan ne chantera d'ailleurs plus jamais ce titre en public à compter de 76. Alors même s'il a perdu ce combat, ami artiste, suivez la voie ouverte par vos pairs et protester encore.
Voilà. Bob Dylan, artiste culte. Il y en a eu d'autres durant ces 10 ans. Il y en a eu 467.
Alors, Christian. Ah, t'as fait le compte, Michel.
Bah, on n'a jamais passé le même artiste deux fois.
Ah, si, plus, ah, bon. Si mais jamais,
non,
jamais,
jamais,
mais
jamais le
même morceau. Voilà.
Gilbert Montagné au tout début, mais on cherchait une marque.
Non, il y a 10 ans, le tout premier morceau culte.
Vous t'attendiez à l'époque.
Signé Led Zeppelin.
Voilà, hein. C'est moi qui le présentais, je m'en souviens.
En tout cas, quand on écoute Cyril, on comprend pourquoi tu nous as virés, Michel. On a pris une belle leçon ce soir.
Ah, bah tu m'étonnes.
Au moins, c'est sûr.
Voilà. Et écoutez ce petit bed qu'on n'a pas écouté depuis 2003.
Cinéma de Saint-Antoine, je t'ai donné mon existence. Et toi, gamin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi ? Cinéma ! Cinéma !
Voilà un bête de cinéma bien...
Formidable.
Hein, formidable. Hein.
Pas voilà. Pris une ride.
Pas pris une ride, 10 ans après. Voilà, voilà. Un bête de cinéma donc, qui annonçait la partie cinéma à l'époque, hein, à l'époque où nous étions le vendredi. Et les deux premières années, dès qu'il y avait, après ce bête cinéma, il y avait le...
Le blind test.
Le blind test qui nous a valu plein de coups de téléphone, n'est-ce pas ?
Alors, qui a fait gagner des places à des milliers d'auditeurs de par le monde.
Et jamais les mêmes.
Et jamais les mêmes.
Et des gens qu'on ne connaissait pas.
Et ce soir, si les gens trouvent le blind test, on leur donne le numéro de téléphone de Fred qui est marqué sur l'affiche. Comme il n'est pas venu,
ils peuvent l'appeler directement.
Ils pourront l'appeler directement.
Voilà, tiens, ça lui fera les pieds.
Il se débrouillera pour les places.
Alors, c'est le 06 87 24 33 89.
Voilà. On va découvrir, on ne dit rien. On découvre ce blind test et puis si vous avez trouvé le nom du film, bah vous avez gagné quoi ?
Bah mon t-shirt rose par exemple.
Et il est très beau.
Ouais, oui.
Pas très juste au corps.
Et pas très propre. Si je peux me permettre.
Allez, découvrez.
Ça fait sa valeur.
Un petit indice. Allez, bah, des fois on donne un petit indice quand même. Un tout petit indice.
Ça s'appelle un blanc radiophonique.
Oh. Voilà. Non, pas d'indice.
Pas d'indice. Tellement c'est facile.
C'est la droite décomplexée. Pas d'indice, Michel.
Allez, c'est parti.
Can I have some champagne?
Qu'est-ce que vous faites là?
It's your friend Antoine. Il m'avait dit de venir.
Bonjour.
Bonjour. Ça va?
C'est du vin.
Thank you. Et there is an incredible...
En français.
Il y a un monde incroyable. Mais il est connu comme peintre.
Ah, monsieur Castella.
Ah, bonjour.
Alors, ça vous plaît?
J'ai pas regardé encore.
C'est qui, lui? Tu le connais?
Non.
Charmant, hein.
Bon. Tu me fais les moustaches de toute façon.
Ah bonjour, bravo, hein. J'ai pas encore regardé, mais il y a plein de monde, hein. Je savais pas qu'il y avait autant de gens, moi, dans cette ville. Vous êtes content, hein. Il est pas content ?
Si, mais il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui devaient venir et qui sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ? C'est vraiment des gros PD, c'est incroyable.
Des gros PD, c'est-à-dire ?
Bah, des PD, quoi. Je
veux dire des gens qui s'enculent ? Comme mon ami et moi, par exemple ?
Voilà. On avait oublié de donner le numéro de téléphone. Ah, si vous avez envie de nous appeler. 04 74 23 72 29. Vous nous donnez le titre du film et vous avez gagné le beau t-shirt de Patrick.
Il ne sera pas accepté au resto ce soir, quoi.
En l'état. Voilà. Alors, on va le faire comme il y a 10 ans. Qui dit partie cinéma dit forcément les films, non pas de la semaine, mais de la décennie. Et. Dieu sait s'il y en a eu des bons et des moins bons, mais pour les moins bons, je me fais une petite joie de vous raconter tout ce qui s'est passé pendant 10 ans, mais une petite histoire avec cinéma, avec un de nos spécialistes cinéma pendant 3 ans, Jean-Philippe.
Je veux bien analyser l'évolution cinématographique de la première décennie du 21e siècle, mais en 5 minutes, c'est pas gagné. Hein. Sans rechercher l'exhaustivité, je me contenterai d'aborder quelques grandes tendances. Alors tout le monde autour de cette table connaît mon goût pour le cinéma américain. Les films hollywoodiens, c'est comme le Cerdon ou le Rosé de Provence, il y en a des bons, même si on tombe rarement dessus. Alors Hollywood, en général, a toujours été imprégné par des préoccupations stratégiques de la puissance états-unienne et les années 2000 n'ont pas fait exception avec le développement d'un cinéma post-11 septembre, pas seulement marqué par l'apport du terrorisme et des armes de destruction massive, mais aussi par la crainte d'un événement catastrophique brutal, susceptible d'ébranler, voire de détruire la puissance américaine et son mode de vie. Cette peur est palpable, par exemple, dans l'adaptation spielbergienne de La Guerre des Mondes, avec de multiples références symboliques aux attentats du World Trade Center. Mais l'œuvre la plus aboutie sur le sujet est sans conteste Batman, The Dark Knight, véritable réflexion sur la nature et le sens du terrorisme, incarnée magistralement par le talentueux et regretté Heath Ledger, et sur la manière d'y faire face sans céder à la peur qu'il inspire. D'ailleurs, le besoin de sécurité induit par le traumatisme du 11 septembre explique partiellement la relance et la prolifération des films de super-héros au cours de ces 10 dernières années. Alors, cette représentation de la menace s'est estompée à la fin de la décennie avec le recul pris peu à peu face au 11 septembre, avec l'élection d'Obama et surtout avec la prise de conscience de nouveaux dangers. Ainsi a-t-on vu un cinéma post-crise financière, composé de séries B honnêtes, riche en références comme L'Enquête, L'Attaque du métro 123. On parle aussi de faire une suite au film Wall Street que Stone avait réalisé en 1985. Et parallèlement, il y a aussi d'autres films qui sont centrés sur la peur de la destruction brutale et qui, cette fois, a quitté le champ du terrorisme pour celui de l'environnement. 5 ans après le jour d'après, qui jouait aussi sur l'impact traumatique du 11 septembre, Hollywood a produit toute une série de films où l'homme subit le retour de bâton d'une trop forte pression exercée sur la nature. Et Avatar est sans doute l'expression la plus célèbre et la plus spectaculaire de cette nouvelle tendance. Alors Avatar, justement, traduit également une autre évolution propre à la période 2000-2010, plus technologique cette fois. Le recours au tout numérique, la décennie avait commencé avec la bluffante trilogie du Seigneur des Anneaux. Elle se termine avec l'œuvre de Spielberg, la 3D ayant pris le relais des fonds d'écran vert. Mais au-delà de la dimension spectaculaire indéniable, une question se pose. A-t-on encore affaire à des acteurs qui jouent et des réalisateurs qui mettent en scène ? C'est sans doute pour montrer que le cinéma hollywoodien ne se résume pas à une débauche de gadgets technologiques que la cérémonie des Oscars a récompensé non pas le très attendu et aussi très efficace Avatar, mais le film démineur réalisé sans effets spéciaux avec des acteurs peu connus et néanmoins talentueux. Ça y est, je me suis perdu.
C'est parce que tu as vu passer Raquel Welch dans
le
cours de
la
radio. Oui,
le tout servi par une mise en scène captivante et capable de tenir en haleine le spectateur autour d'un scénario qui était pourtant ténu. Et puis la décennie écoulée a vu aussi la confirmation d'autres cinémas de qualité, moins médiatisés que les réalisations de l'industrie hollywoodienne. Par exemple, le cinéma latino-américain en plein essor, porté par la réussite de réalisateurs argentins et mexicains, notamment Guillermo del Toro, auteur d'un fabuleux Labyrinthe de Pan. Côté asiatique, la Corée du Sud a rejoint le Japon et Hong Kong parmi les grands foyers de création du 7e art pour nous offrir des films fulgurants comme le génial Old Boy de Park Chan-wook.
Pas érotique du tout d'ailleurs.
Je parle sous le contrôle de Christian qui maîtrise parfaitement le coréen. Bien sûr. Alors, avec plus de temps, on pourrait aussi évoquer le cinéma, le succès du cinéma indien, qui produit depuis très longtemps plus de longs métrages que les États-Unis, attire plus de spectateurs et a commencé ces 10 dernières années à s'étendre au-delà de sa sphère de diffusion traditionnelle, en séduisant un public occidental de plus en plus large. Et je ne parle pas de l'Allemagne, dont les meilleures réalisations trouvent leur inspiration dans le souvenir de l'ex-RDA, d'abord avec l'astucieux Goodbye Lenin, puis l'excellent La vie des autres, qui est, à mon goût, un des meilleurs films de la décennie. Et le cinéma français, me direz-vous ? Eh bien, ce sont souvent les recettes d'antan qui marchent le mieux, avec les bonnes comédies dites pompeusement populaires. Je vois d'ailleurs Christian qui s'agite sur son siège.
On va se régaler.
Pour me presser de parler du grand succès de la décennie, Bienvenue chez les Ch'tis. Un bon film, me souffle-t-il ? Une comédie fraîche et légère, comme une tarte au maroilles trop affinée, qui a fait beaucoup pour populariser et relancer la mode des baraques à frites hors du Nord-Pas-de-Calais. Mais revenons au cinéma et au cinéma hexagonal qui a heureusement une existence propre hors de Cadmerade et de Danny Boone et qui nous révèle souvent de bonnes surprises dans la famille des drames psychologiques et sociaux. Je citerai « Il y a longtemps que je t'aime », première réalisation réussie pour le romancier Philippe Claudel. Et comment ne pas parler de Lucas Bellevaux, véritable révélation des années 2000-2010. Personne ici n'a oublié sa trilogie audacieuse. Une comédie, un polar et un drame ayant en commun des personnages évoluant dans un même cadre géographique, c'est-à-dire Grenoble, au même moment. On l'avait d'ailleurs interviewé dans ce studio, je crois. Oui. À la fois acteur et réalisateur, ce Belge politiquement engagé a confirmé tout son talent en 2006 avec La raison du plus faible, véritable tragédie sociale où les personnages sont fatalement broyés par une logique économique post-industrielle, où les friches industrielles ont encore plus de valeur que l'individu, où l'amitié constitue également le dernier lien social, face à la quête déshumanisante du profit. Mais c'est avec Rapt, film relatant l'enlèvement du baron Ampin et sa descente en enfer après sa libération, que Bellevaux obtient une véritable reconnaissance de son talent. Ses multiples nominations au dernier César en témoignent. Espérons que son parcours ne s'arrêtera pas là et qu'on lui confiera encore de nombreux projets ambitieux, notamment, pourquoi pas, un film sur la déchéance nationale éventuellement de Sarkozy après sa déroute au présidentiel de 2012.
Donc j'ajoute qu'il avait... il avait aussi réalisé un excellent téléfilm autour de l'affaire Elf.
Oui, très efficace.
Pas, qui s'appelait Les Prédateurs et qui ne rentre pas vraiment dans le cadre du cinéma, mais enfin, on n'en est pas loin.
Et en plus, il a un mérite, c'est qu'il n'engage jamais Catherine Deneuve dans ses films, et ça, c'est plutôt positif.
Ça t'a pas passé, ça, cet anti-deneuvisme primaire.
Oui ? Ah, m'attendiez là.
C'est à moi.
Oui, c'est à moi. Non, c'est pas encore à moi. Oh là là, non. On va... Bon, personne. Non, je suis un peu perturbé parce que je cherche quelque chose.
Si, moi j'aurais bien parlé un peu du film qui m'a marqué durant ces 10 ans, qui est le film de David Lynch, Mulholland Drive.
Il n'y a pas tes initiales sur l'affiche, c'est pour ça.
Oui, ah, excuse-moi, tout Christian. À fait. Mais
Christian, c'est quand même un de nos spécialistes cinéma. Jean-Philippe, quand même.
Tu parlais de metteur en scène, tu parlais d'acteur. Là, je crois qu'on est vraiment dans un film qui rend hommage aux deux. Metteur en scène, d'ailleurs, je me suis rendu compte que durant ces 10 dernières années, tout le monde fait de la mise en scène. Alors qu'avant c'était un métier qui se préparait, on était assistant réalisateur, on faisait ses gammes, etc. Maintenant on fait plus de gammes, on montre trois fois sa bobine à la télé et on met en scène un film. Bon, je pense que c'est autre chose. David Lynch l'a montré dans Mulholland Drive, qui a réalisé un film totalement irréel, quoi, inclassable, qui continue à faire parler les gens sur le net. Il y a encore des thèses sur ce qu'il a voulu dire dans le film, sur ce qu'il a voulu démontrer par là. Et je pense que c'est un des grands films. Inland Empire, son film d'après, a été un peu moins abouti, mais je pense que c'est un grand film de ces 10 dernières années, qui est sorti en 2001 et qui a marqué l'apogée de sa carrière.
J'en ai pas parlé parce que d'abord, tu en parles beaucoup mieux que moi. Et également, son talent a été déjà reconnu depuis très longtemps. Oui. Il n'a pas éclaté au cours des années 2000. Donc moi, je me... bornait à étudier un petit peu ce qui s'était passé au cours de cette décennie et ce qui s'était révélé au cours de cette décennie.
Et là d'ailleurs, on n'avait vraiment pas affaire à des acteurs ou des actrices de synthèse. Quand on voyait Naomi Watts ou Laura Elena, c'était totalement autre chose, quoi. Mais c'est vrai que tu as bien parlé de l'influence de plus en plus grandissante des images de synthèse. Il n'y a plus que le public hein, qui est plus de synthèse maintenant, mais ça pourrait peut-être le
encore
devenir.
Pour certains, je pense qu'ils sont déjà bien synthétiques en tout cas.
C'est possible.
Sûr. Et il avait raison de citer la montée du cinéma coréen avec Oldboy, un film que j'ai vraiment adoré, qui pour une fois était primé à Cannes, alors que c'est un film quand même assez atypique, d'une violence physique et psychologique tout du long du film. On descend en enfer à chaque marche et on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. D'ailleurs ça s'arrête jamais, hein. Même la scène finale du film est encore, je crois que c'est la pire de tout le film. Et c'est, je me dis que quelque part c'est bien qu'il y ait un public aujourd'hui qui quand même va voir ce genre de cinéma, quoi. Alors que il y a 10-15 ans, je sais pas si les gens se seraient déplacés pour ce genre de choses.
Oui, ça fait partie de la mondialisation positive, celle de l'art.
Voilà, c'est l'époque où on est un petit peu gagnant.
Ben on verra si les gens se déplacent pour la prochaine Palme d'Or, qui doit sortir en septembre, qui est due à un cinéaste asiatique qui s'appelle Apichatpong. Voilà, c'est un prononcement. Apichatpong, Where is it Aku, voilà. Qui a été primé à Cannes et dont le film est assez intriguant.
Et assez controversé. Et assez controversé, cette Palme d'Or.
Mais oui, c'est plutôt bon signe.
Ouais, généralement, oui, généralement, c'est bon, c'est vrai. Tu as raison, Christian.
Les palmes consensuelles, ouais, genre le film de Lasse Hallström qui s'appelait Pelé le Conquérant il y a quelques années, n'a pas du tout été controversé et était aussi fadasse que.
Non, ce qu'il faut espérer, c'est que la logique économique ne détruise pas le cinéma, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Les films que tu cites. Moi, je trouve que c'est une décennie quand même qui est relativement pauvre, notamment pour ce qui est des films américains. Et les films coûtent de plus en plus cher. La question de savoir si les acteurs sont toujours des acteurs, parce que c'est des acteurs de synthèse, peu importe, c'est le résultat qui compte, mais ça demande plus d'argent et donc moins de risques, et les risques se prennent ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher vers des films à plus petit budget ou venus de pays où on a.
Oui, mais là, on rejoint le problème du financement du cinéma qui est en grande partie lié à l'utilisation qu'en feront les chaînes de télévision. Donc, c'est un problème qui date de. Enfin, qui n'est pas nouveau, quoi.
Ouais,
qui s'accentue.
Oui. Voilà, j'ai l'impression qu'il s'est accentué, qu'il s'est accéléré, et notamment avec les gros complexes de cinéma. Et puis, ce qu'on en fait derrière, voilà, comme tu le dis, les télévisions, les ventes de DVD, fait quand même qu'il y a une grosse machine qui est en train d'écraser. Écraser le cinéma. C'est bien que, par exemple, le Festival de Cannes existe toujours. Existe d'une autre façon maintenant et donne la parole à d'autres réalisateurs.
Ainsi que l'Institut Lumière à Lyon aussi.
Oui, enfin, c'est la même chose.
Oui, les deux étant liés, puisque c'est Thierry Frémaux qui est en charge les deux.
Hein. Oui, puis il y a quand même des festivals aux États-Unis, je pense, parce que celui de, je ne me rappelle plus son nom, mais de Redford qui a lancé
Sundance.
Voilà, Sundance, ouais. Qui effectivement essaye un petit peu de contrecarrer cette mainmise financière sur le cinéma en disant les idées, ça ne se monnaie pas. Quoi, d'ailleurs, Avatar, une fois que tu as enlevé la 3D, il reste pas grand-chose du film. Hein. Le scénario est plus que mince. Hein.
Oui, sauf que ça a fait des entrées.
Et voilà, c'est bien le problème. Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, si t'as pas 100 millions de dollars pour faire un film, c'est même pas la peine d'essayer. Quoi. Ce qui est triste. Ce qui est triste.
Bah justement, Des Mineurs a été réalisé avec beaucoup moins.
Voilà. Et c'est un très bon film. Donc,
c'est un film très prenant, en fait.
Ouais.
Je préfère perdre un Fort Boyard que venir à la boulotte chez moi.
Golf vert blessé, puis il passe. Laissons neuf otages au destin. L'Amérique a tout gâché. Les uns et les autres ont fui. Et Rose est si seule au soir de sa vie. Si peu sont encore en vie. Les nuits sont longues pour Rose Kennedy. Joseph d'abord est parti dans son libérateur en y soit qui m'a. Mais le Seigneur l'a lui repris. Tout fut joué d'avance. Les uns et les autres ont fui. Et Rose est si seule au sort de sa vie. Si peu sont encore en vie. Les nuits sont longues pour Rose Kennedy.
C'est à moi. Rose Kennedy.
T'as perdu ta feuille.
Benjamin Biolay. J'ai choisi Rose Kennedy pour pouvoir dire que c'était le titre éponyme de l'album.
Ah, le fameux éponyme.
Eh oui, voilà. Complaceur.
Donc, c'est, très franchement, je pense que Benjamin Biolay, c'est la révélation musicale française de cette décennie. Il commence en 2001. Enfin, c'est le premier album d'une série de cinq. Je crois que tout est dit dans cet album de 2001, même si on a fait des gorges chaudes du dernier album. Moi, je préférais sa voix un petit peu en retrait. De ce concept album sur la famille Kennedy avec cette femme qui est morte dans l'année de ses. Enfin, qui allait avoir 105 ans quand elle est morte et qui a vu toute sa famille disparaître. Voilà, il surfe un peu sur cette idée-là. Avec, alors, avant cet album, évidemment, on le connaissait parce qu'il était allé voir ailleurs, il a mis un peu de temps. Il avait cette espèce d'image de vilain garçon qui a fait qu'on l'a mis au banc, mais. Vraiment, c'est, je crois, l'album qui restera, enfin, pour moi, qui restera. Rose Kennedy, Benjamin Biolay.
C'est pas évident que la superbe le détrône pas, parce que là, je trouve que ça a pris tellement d'ampleur au niveau des arrangements. Et tu dis, là, oui, la voix était plus en retrait, elle n'est pas vraiment non plus en avant, un peu plus quand même dans la superbe.
Je trouve que dans la superbe, il s'est rangé un petit peu, il a accepté le jeu, il n'avait plus de maison de disques, donc il a fait quelque chose qui était...
Avec sa nouvelle liaison, ça pourrait s'arranger peut-être.
Peut-être, oui.
C'est qui?
Non, non, nous ne sommes pas là pour potiner.
On va supprimer l'émission, Michel.
Dans Téléstar, ils n'en parlaient pas, c'est pour ça.
Ah, bah, s'ils n'en parlent pas dans Téléstar.
La Superbe, il a fait quelque chose, à mon sens, d'un peu plus commercial, avec plein de guillemets.
Oui, tu peux mettre des guillemets quand même, parce que le commercial n'interdit pas le beau artistiquement. Quoi.
Je pense que dans Rose Kennedy, c'est un album abouti, c'est l'album abouti. Ensuite, il ne fait que surfer sur cet album-là.
Et je suis d'accord avec toi pour la révélation française des 10 dernières années. C'est pour ça que j'ai oublié de le mettre dans mon bilan. Bah, ça sera fait comme ça.
Voilà. Il y a 10 ans, nous étions 5 au départ. Et ben, il en reste quand même 4. Enfin, à peu près 9-10 ans, Patrick, Christian, Thierry et Jean-Philippe. Je n'oublie pas Cyril, qui depuis...
Bah, oui, campagne. C'est la cinquième roue du carrosse un peu. Hein.
Je t'en prie. Non, la cinquième porte. La cinquième porte du
carrosse. Ouais, je sais pas, ouais.
Hein, voilà.
La cinquième porte du carrosse. J'avoue ne pas suivre vos images fulgurantes.
Cinq portes, voilà. Donc il y avait une partie cinéma avec les films de la semaine qui sortaient, après la présentation des films qui sortaient en salle à Bourg-en-Bresse, Oyonnax et en Berrieux.
Ah, en Berrieux, on a oublié. On salue en Berrieux d'ailleurs, où on a un fan club absolument.
C'est toujours en Berrieux, on a encore une auditrice.
Et en Berrieux. Et après, donc, on passait la BO du film. Et justement, il y a un soir où le mot surréaliste a pris toute son ampleur. Alors, replaçons-nous dans le contexte. Hein. Nous sommes donc le vendredi 25 janvier 2002 et la BO du film Days of Thunder, signé des Guns N' Roses, est une reprise du cultissime. Vous vous rappelez plus? Knocking on Heaven's Door.
Ah, de Dylan.
Robert Zimmerman, je t'en prie.
Oui, par la nostalgie.
Voilà, donc vient de retentir sur les ondes. Alors, Patrick, est prêt à intervenir au téléphone, car tu étais au téléphone ce soir-là, lorsque soudain...
Les Guns N' Roses, les Guns N' Roses.
Attention Comet, t'es là-dessus?
Si j'ai choisi...
Attention Comet, t'es là-dessus?
Voilà, merci le portable. Si j'ai choisi donc Jour de Tonnerre ce soir, Death of Thunder en anglais, donc ce n'est pas pour le film, bien sûr, hein, l'histoire n'ayant qu'un intérêt limité, mais bien pour la bande...
Attention, changez de canal, s'il vous plaît, j'essaie d'appeler, là.
Et bien pour la bande originale, excusez-nous, on... C'est toi, Patrick, hein?
C'est Jacques Zéroin qui essaye d'appeler, s'il vous plaît.
Ah ben Jacques Zéroin, si vous pouvez raccrocher, ça vous arrangerait bien. Patrick, tu nous entends?
Bonsoir.
Excuse-nous, hein, on est interrompu par un civiste.
Ben je sais pas, j'ai l'impression qu'effectivement... Ben, j'essaie d'appeler sur le 19 et... J'ai l'impression qu'on a quelqu'un sur la ligne. S'il vous plaît.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait?
Un peu de friture.
Non, je pense que c'est un sketch, hein, Michel, mais je...
C'est même pas un sketch, non.
J'ai l'impression qu'on avait quelqu'un... C'est le canal d'appel, hein, je vous rappelle, là. On parle pas sur le canal d'appel, on change de canal, et on a 40 canaux, quand même. On peut écouter, c'est assez intéressant, finalement, d'être prendre des choses sur certains terroristes ou... Enfin bref, nous aussi, on a le droit de faire de la radio, quand même, hein. Je rappelle à tous les civistes que la radio, c'est des radios libres en France. Ok, je te reçois. Voilà.
Bon, bah...
C'est surréaliste, mais je crois, Michel, que en fait, c'est sans doute la reprise de cette chanson de Bob Dylan qui a dû réveiller les... On peut pas appeler, on appelle, puis... Qui a dû réveiller les civistes, je pense.
Bon bah alors moi je sais plus quoi faire. Voilà. Bon bah je voulais parler de David Cobain.
Bah ouais, même je peux aller plus haut si je veux. Bon, j'en ai 240.
Ah bah vas-y.
Ne vous faites pas prier.
Patrick, est-ce qu'on va peut-être régler le problème, mais à mon avis c'est très faux.
Ah mon QRZ, c'est Jacques et toi.
Voilà. Est-ce que vous m'entendez?
Ah c'est toujours toi, oh, excuse-moi. Non mais il y en a qui essayaient d'appeler, je voulais essayer d'appeler quelqu'un d'autre et puis bon moyen.
Voilà. On a coupé le téléphone. On a...
Eh ben, je te souhaite la bonne soirée, excuse-moi, hein, salut.
Bon, donc, Patrick, est-ce que je vous entends toujours? Et non, j'ai raccroché.
Eh oui.
Bon, bah, donc, on va le rappeler, hein, on va le rappeler tout de suite. Jean-Philippe, tu peux nous parler un petit peu des.
Des civistes. Voilà.
C'est vraiment compliqué cette semaine.
Voilà, tu peux nous en parler, Jean-Philippe? Tu t'en souviens, Jean-Philippe?
Alors, pas du tout.
Pas du tout.
Et vous êtes sûr que c'était moi, Jean-Philippe?
Vous avez eu des nouvelles après ou...
Mais Jacques 01 s'en souvient très bien.
Aucune.
Il est mort d'atroce souffrance, ce civiste.
Enfin, il peut aller les plus loin, il en a 240.
Voilà, ça c'était signé, c'était donc...
Vous n'avez pas soupçonné vos concurrents locaux? Non, on ne citera pas de...
Ça nous est arrivé qu'une fois, hein, mais on s'en souvient encore, voilà. Mais c'était pas la faute à Patrick, hein. Voilà.
C'est quand même curieux.
Non, c'est pas de ma faute, mais Henri IV non plus, c'est pas de ma faute. Enfin,
Kennedy non plus.
Ouais, Kennedy non plus.
En tout cas,
chômage non plus.
Ah! Cyril.
Pardon, excuse-moi Michel, j'écoutais la conversation qu'on était en train d'avoir ici. Pardon, autant pour moi. En plus, oui.
Cyril disait beaucoup de bien d'Henri Salvador.
Vous aurez reconnu Le Parrain par un film inusable, quel que soit l'âge où on l'a découvert ou le nombre de visions que l'on s'est accordé. Le chef-d'œuvre de Coppola ne perd jamais de son mystère et de sa fascination. Que l'on évoque la diction de Marlon Brando, transformé pour son rôle, le mimétisme de De Niro qui rentre dans la peau d'un Brando jeune dans le deuxième opus, le jeu tourmenté d'Al Pacino, la fougue de James Caan, les noms exotiques devenus légendaires de Corleone et Clemenza, Solozzo ou Tartaglia, tout un imaginaire fait de souvenirs plus ou moins précis s'ouvre à nous. Mais comment parler d'un tel mythe aujourd'hui ? En y voyant tout simplement, au-delà de la maestria cinématographique à raison tant vantée, l'histoire universelle d'un individu ordinaire pris au piège du milieu et d'une société dans lesquelles il évolue et auquel il ne pourra jamais échapper. Parmi tous les termes utilisés pour définir un film tel que Le Parrain, c'est le mot opéra qui revient le plus souvent. Grandiloquence des sentiments, violence extrême des actions, mise en scène dithyrambique et voyante, puissance du dialogue, jeu exacerbé des comédiens. Le Parrain, chef-d'œuvre incontesté du film de mafiosi, est un opéra funèbre, une lente descente aux enfers, une tragédie à la fois moderne et atemporelle. Tout dans le film vient corroborer ce parallèle du thème musical et de ses variations obsédantes mêlées aux compositions les plus classiques, jusqu'à l'enchevêtrement et la complexité des intrigues, en passant par la brutalité des affrontements entre les personnages.
Oui, Patrick.
Et pourtant, ce qui frappe aujourd'hui, au-delà de la puissance cinématographique générée par la théâtralité et l'effet de groupe de l'opéra, c'est le versant intimiste de l'œuvre. Si Le Parrain a tant marqué les esprits, c'est que Coppola ne s'est pas limité à une simple exposition d'inhumanité et de cruauté, comme tant d'autres l'ont fait après lui, croyant avoir compris son univers. Certes, le film a fait sensation en son temps par ce déferlement de violence presque insoutenable, où chaque crime est observé à la loupe pour mieux en montrer toute l'horreur. Hommes étranglés, éventrés, poignardés, femmes battues, Coppola ne se complaît pas dans la violence, mais montre dans le détail et sans dissimuler l'horreur de l'acte, à quel point il est facile de supprimer une vie humaine lorsque l'on est convaincu d'en avoir mesuré le véritable prix. Et comment parler de cet opéra moderne sans sa magnifique bande originale composée pour les deux premiers opus par Nino Rota, compositeur et chef d'orchestre italien réputé entre autres pour ses compositions de films, plus de 170 à son compteur. Ce dingue de boulot à travers les plus grands, de Coppola à Henri Verneuil en passant par Fellini, qui ne jurait d'ailleurs que par lui. Les BO de La Strada et de La Dolce Vita sont entre autres de lui. Et voilà, un univers magnifié par cette musique et ô combien intéressant et inusable.
Voilà. Là, ça peut être une des BO de ces 10 ans. Non, pas de ces 10 ans.
Inusable.
Inusable. Inusable.
Intemporel.
Voilà. Donc, toujours au terme des prétentieux, pour une émission un peu particulière, hein, on fait un petit peu 6 jours à l'avance. Hein, c'était le 1er septembre 2000, les 10 ans de l'émission. Donc, il y a une rubrique qui revenait souvent lorsque l'émission avait lieu le vendredi soir. C'était l'émission, c'était la rubrique des films à ne pas voir. Rappelez-vous. Et alors 10 ans de films à ne pas voir, ça ira vite, même si...
La liste est longue quand même.
Oui,
oui, mais heureusement, ce soir, elle sera courte. Parce que résumé, donc 10 ans de films à ne pas voir, c'est comme demander la limite de la fonction racine de X.
Oui, moi, je peux y répondre, mais je ne vois pas très bien l'intérêt radiographique de cette découverte.
Bah, elle est infinie.
Ça dépend où.
Oh là là, non, on va passer à celui suivant.
Ça dépend où. Une limite, sans préciser à quel endroit on se place, ça a autant de valeur qu'un cerdon au milieu de Grand Cru de Bordeaux.
Donc Christian a eu la médaille Fields cette semaine.
Non, j'ai eu une médaille, mais pas celle-là.
Il l'a refusée.
Donc elle est infinie tellement le niveau du cinéma dans le monde est le même que celui de la musique, ou plus grave, celui du nombre de personnes croyant que la réforme des retraites et le passage à 62 ans est inéductable.
On a du mal à suivre. Mais
et en plus, elle serait trop longue pour tenir sa place dans l'émission. Une merde par an, ce sera plus simple et ça ira vite. En 2000, mon choix se portera sur Taxi 2.
Ah oui.
Taxi 2, encore plus impressionnant que le
premier. T'as pas pris de risque.
Hein. Oui, Taxi 3 est aussi dans ta liste. Alors. Voilà,
alors même Samy Nasseri n'a pas supporté et est tombé depuis dans la drogue. Et à force de narguer les policiers en voiture, a fini en prison. Et en est ressorti, je dirais, tout retourné au sens propre. Autant qu'au sens figuré.
Ouais. Oui, il n'a pas fait le prophète. Quoi.
Voilà. En 2001, Yamakasi.
Et pas Taxi 3 ?
Oui, mais attends. Ah, mais c'est 2002 ou 2003.
Voilà. Yamakasi, tu m'apprends l'existence de ce film.
Voilà, aussi, c'est ce
tu vas nous faire un petit pitch.
Il grimpe au mur, oui.
Nous ont démontré que l'art du déplacement était soluble dans le ciment et qu'en banlieue, il y a aussi et surtout des jeunes en manque de repères et pas uniquement cinématographiques.
Deux films produits par Besson. Hein.
Ouais. Voilà. Enfin, à noter que dans le premier, c'était que des amateurs qui tournaient. Hein. C'était les vrais.
Un Taxi 2 mais...
Non.
Les vrais malades.
Voilà.
Cyril est spécialiste du cinéma amateur.
Surtout ceux qu'il ne faut pas voir. Vous avez tous vu cela.
Il a fait des snuff movies.
On continue dans la grimpette en 2002 avec Spider-Man et ses toiles d'araignée, ou comment un comic book devient un des plus grands navets du 7e art. Tout est réuni pour que l'on s'endorme au cinéma. Et le pire, c'est que ça marche.
On est tout à fait d'accord avec toi et tu es un spécialiste des araignées.
Oui, qui dorme. On parlait BD. Bah, tiens, en 2003, Luc Besson continue de plus belle avec un scénario de Michel Vaillant à faire pâlir de honte Jean Graton et le sport automobile. Heureusement qu'il est précisé que le film était une libre adaptation de la bande dessinée. On aurait compris tout seul.
Et Thierry qui est spécialiste des Graton. Merci.
J'attendais qu'on le fasse remarquer.
On ne peut pas parler de film à ne pas voir sans parler de...
Taxi 3.
Un artiste. À l'époque, un artiste, maintenant un pseudo-artiste français.
Un pseudo-artiste, 2004, attends, il y en a
un. Je ne sais plus là.
Qui a le même prénom qu'un de vous ici.
Christian Clavier.
Voilà. En 2004, il joue dans l'enquête corse, sûrement tiré de ses démêlés avec les nationalistes, et sauvé par qui vous savez, un avant-goût de ce qui allait nous attendre en mai 2007. La palme de l'horreur revient sans contexte à Brice de Nice, qui en 2005 nous fera regretter que Chouchou se soit marié avec Loulou. C'est le début de l'ère Jean Dujardin qui nous gratifiera de plein d'autres chefs-d'œuvre par la suite. 2006 sera l'année de tous les records. Et pense forcément dans le bon sens, puisque Patrice Lecomte n'a pas hésité à se ridiculiser avec le troisième volet du cultissime film...
Les Bronzés.
Ah, oui, c'est vrai. Oui, catastrophe, ça.
Tu nous fais du mal, Michel.
Ouais, autant le premier était culte, autant celui-là. Ouais.
Amis pour la vie, qu'ils disaient, avoir leur état 25 ans après, j'ai de sérieux doutes sur leur capacité à relever le défi pitoyable. Retour gagnant du duo Nasseri Difintal en 2007 avec...
Taxi 3.
Non, 4.
Ah, 4.
Il y en a eu un 4.
Il y a un peu de qualité dans Taxi 3, en fait.
Lorsqu'on embauche Djibril Cissé comme acteur, on peut pas non plus attendre au chef-d'œuvre de l'année. Luc Besson devrait le savoir.
Oui, mais quand on l'embauche comme footballeur, c'est pas mieux. Hein, donc.
2008 verra arriver sur tous les écrans de France un certain Kadour Merad, plus connu désormais, malheureusement pour nous, sous un nom d'artiste de...
Sous le nom de Bourville, oui.
De Cadmerade, avec l'insupportable film.
Mais je sais pas, il en a fait plein quand même.
Ouais, 2008, tu dis ?
L'insupportable.
Cadmerade...
Son premier grand film.
La Horde Sauvage, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui non plus.
Vous me décevez, là.
Shining ?
Casablanca.
Il y a eu Seul Tout, mais ça, c'est beaucoup plus récent.
Les Ch'tis.
Ah, c'était les Ch'tis ?
Ah, déjà, deux ans.
En 2008, 20 millions de...
Mais pourtant, on y croit, dans les Ch'tis. Moi, je trouve qu'ils...
Eh oui, 20 millions de téléspectateurs plus tard. Christian court encore. Après Dujardin, voilà, Merad, et on voit désormais, que l'on voit partout. Hein. Au nord, c'était les corons, disait Pierre Vachelet. Maintenant, c'est Cadmerade. Là, c'est limite de l'écœurement. Alors, il y aura égalité en 2009. Eh oui, d'un côté, Lucky Luke avec Jean Dujardin et LOL avec Sophie Marceau.
Ah oui. Ouais. Eh oui. Ouais, alors, difficile, effectivement.
Alors pourquoi nous refait-elle le coup de la boum 30 ans après ? Le talent n'est pas lié à l'âge, hein, devrait le savoir.
Ah bah non.
Et le cavalier de Jolly Jumper ne méritait ni Loulou ni Michael Youn. Il vaut mieux être un pauvre cow-boy solitaire que mal accompagné. Ça 2010, ça n'est pas encore terminé, que déjà se profile à l'horizon une des plus belles perles que le cinéma français n'aurait jamais dû connaître. Camping 2.
On avait déjà oublié. Merci Michel.
Oublié Camping.
Et ça y est, je tiens à mon dixième larron, Franck Dubosc. Voilà.
Ça n'a pas bien marché, Camping 2, non ?
Je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Des fois, ça ne marche pas. Et en plus, ça en avait.
Oui.
Hein, je vous l'avais bien dit. Donc, la liste des films à ne pas voir ne s'arrêtera jamais. Alors, de grâce, téléchargez-les. Mais ne leur faites pas ce plaisir d'aller les voir au cinéma ou de les acheter en DVD. Elles ne méritent pas votre argent.
Hein. Non, télécharger des films comme ça pollue, Michel. Hein.
Ne les regardez pas.
Oui, ne les regardez pas. Enfin bon, même si vous êtes fatigué, vous pouvez les acheter quand même.
Pas de crédit.
Voilà. Les films à ne pas voir, il y en a eu un certain nombre. Voilà. Ah, c'est tout.
On est à la limite de l'écœurement.
Ah là, c'est.
Ah oui, là, la coupe est pleine.
Je pense que oui, c'est. Ça fait envie d'aller au cinéma quand même. De plus en plus ou de moins en moins.
Bah, je sais pas. Moi, quand tu parles de toute cette liste, ça me donne envie de regarder Joséphine Ange Gardien parce que ça me permettrait de. Pour prendre un peu le moral.
Et de rebondir sur la partie média.
Voilà. Et tu rejoindras ainsi une grande majorité de Français qui ont élu Mimi Mati comme leur femme préférée.
On en revient quand même à la question du financement. Hein, et quand on voit l'argent qui est disponible pour faire des merdes, on se dit qu'après tout, il y a bien du pognon pour faire des bons films quelque part. Il suffit de le trouver.
Tropic FM.
97 FM.
Avant de se quitter, les concerts de la semaine, le vendredi 20 juin 2025 à tout bout de champ à Lyon, Aigre Douce, et lundi matin au Parvis de la Tannerie à Bourg-en-Bresse, Astoria et Novembre, et au Théâtre Antique de Fourvière à Lyon, les Nuits de Fourvière avec l'Amomalie. Le samedi 21 juin 2025, c'est la fête de la musique avec des concerts un peu partout dans toutes les villes et dans tous les villages. À la salle polyvalente à Courzieux, le Courzy Fest spécial tribute avec Now or Ever, Bon Jovi, Fire, Fire and Ice, Yngwie Malmsteen, Inspiration, Crypt, ACDC et aussi spécial Ozzy Osbourne. Au Théâtre Antique de Fourvière à Lyon, les Nuits de Fourvière avec La Momalie. Et au Brise-Glace à Annecy, Stunt, More Knife et Terra. Le mardi 24 juin 2025, à la scène nationale de Bourg-en-Bresse, Jamil Le Schlag. Au Théâtre Antique de Fourvière à Lyon, les Nuits de Fourvière avec Hervé. Le mercredi 25 juin 2025, scène nationale de Bourg-en-Bresse, toujours Jamil Le Schlag. À la guinguette au parc à Lons-le-Saunier, Air Max. Et à la LDLC Arena à Décines, Slipknot. Et on termine le jeudi 26 juin 2025 aux anciennes usines Fagor-Brandt à Lyon, le Lyon Street Food Festival avec FFF Église. Et on termine au parvis de la tannerie à Bourg-en-Bresse avec Nid, Grue et Micro-Frigo. Il va être l'heure de se quitter. La semaine prochaine, retrouvez la deuxième partie des 10 ans d'Au Terminus des Prétentieux du jeudi 26 août 2010. Une 467e émission pas comme les autres avec Christian, Jean-Philippe, Thierry, Patrick et Cyril. Il sera question de musique et de médias, sans oublier quelques perles radiophoniques dont vous êtes friands. Si vous êtes jeudi, retrouvez à 18h30 ou un peu avant la rediffusion de la 38e édition de Roman de Gare. J'accueillais au téléphone l'auteur saint-chéfoise Gaëlle Perrin-Guillet. Elle présentait son dernier roman, La Régulation, paru aux éditions Fleuve et dans la collection Outre-Fleuve, le 7 mai 2024. Sur ce, comme le dit si bien Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur le 90.0
de Radio B.
Bonne soirée.